Donc, moi, je suis née à Oran, dans une famille populaire espagnole, et avec même des grands-mères dont une ne parlait qu'espagnol. Et quand la guerre éclate, bah, c'est un peu une surprise en Algérie, à Oran, en tout cas dans mon milieu, parce que je me souviens de discussions où on disait à mon père, est-ce que ça peut être comme l'Indochine? Mon père me dit non, non, c'est pas pareil. Oran, c'est une ville française. Bon. Et puis quand la guerre éclate, ben là, brusquement, je prends conscience. Je prends conscience que le monde dans lequel je vivais, c'était pas forcément le monde algérien. Je dis ça pour simplifier. Et ça commence par le fait que, ayant le bac dans une famille où personne n'avait encore eu le bac, et aller même au lycée, je me dis que parce que je veux comprendre, j'ai toujours voulu comprendre ce qui se passait autour de moi, j'ai dit, ben, je veux être institutrice dans un douar, dans un djebel. Et là, tout le monde me dit, mais elle est folle. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à dire que j'étais folle. Et ils ont été voir mes profs qui m'ont permis d'aller en France avec une bourse. Avec une bourse pour un lycée, pour une hippocagne, une cagne. Et c'est comme ça que je me retrouve d'abord à Versailles, où vraiment je me sens isolée, je ne comprends pas grand-chose. J'allais bien à Paris de temps en temps, avant ensuite de me retrouver à l'université, et dans un milieu différent. Alors, la guerre d'Algérie, ben, c'était déjà l'histoire d'une prise de conscience et d'un engagement aux côtés des Algériens. Mais en même temps, je ne voyais pas très bien comment m'y prendre. Par exemple, quand j'allais à la Sorbonne, j'essayais de voir des groupes et je ne les comprenais pas. Je les trouvais, bon, je donne cette expression, mais très liés à la petite bourgeoisie où ce n'était pas mon milieu. Alors je me souviens, je crois que c'est l'UGS, je ne me rappelle pas très bien des noms. Et tous ces groupes-là, bon, je me demandais ce que je pouvais faire, quoi. Et je retourne en Algérie avant 62. Et c'est là que, un peu avant 62, j'ai eu la chance de pouvoir rester, parce que bon, c'était cette époque, il y avait des menaces avec l'OAS. J'ai dû partir précipitamment, me retrouver en France. Et ensuite, quand je suis revenue en Algérie, c'était pour espérer construire un monde meilleur, un monde nouveau. Et évidemment, j'étais très liée d'ailleurs au Parti communiste algérien. Des gens qui souvent étaient partis d'Algérie se retrouvaient à Moscou, et on discutait beaucoup. Puis on allait à la campagne, on aidait. Il y avait des, non pas des, il y avait même des comités de gestion. Oui, il y avait tout un engagement dans cette Algérie nouvelle. Et puis, assez vite, en Algérie, ça a été la déception. D'abord, y compris, on a vu la religion prendre un peu plus de place. J'avais un copain qui me racontait, un copain algérien, qui me disait, tu comprends, cette fois-ci, ils m'ont mis vraiment en cause. Ils ont dit, lui, avant de lire le roman, le Coran, il lit Marx, c'est pas possible, ça peut pas être un Algérien. Et donc, on voyait les choses changer, y compris au moment du Ramadan. Les filles ont commencé à se voiler un peu, les restaurants universitaires ont fermé. Donc, il y avait tout ça, et puis coup d'état de Bouniane contre Ben Bella, je perds mon boulot, c'était un boulot d'enseignant déjà, enfin, j'étais toute jeune, mais bon. Et je commençais tout juste. Et je vais me retrouver en France, dans une société que je ne connais pas, en fait. Hein, pour moi, la France, ça a toujours été loin. Moi, je n'allais pas en vacances. Dans mon milieu, on n'allait pas en vacances en France. On ne connaissait pas. Il a fallu, quand je suis allée pour la première fois en France, mais la première fois, je suis restée 9 mois, c'est là que j'ai commencé à lire les journaux engagés. Et j'avais quand même entendu parler de la torture. Moi, j'avais pris toujours position contre la torture. Et c'était en même temps extrêmement important de me situer dans cette période-là. En plus, j'étais toute seule. J'étais toute seule pourquoi? Bon, parce que dans la famille, on ne me comprenait pas. Et on ne me comprenait pas, c'était pas possible d'imaginer en plus dans la famille et les gens autour bon, que l'Algérie serait un jour indépendante. J'avais beau leur dire que c'était un moment historique et que les Algériens étaient capables d'être indépendants. Et bon, après ça s'est précisé un peu quand je me suis retrouvée faire des études en France, mais c'est peu à peu que j'ai compris tout ça. Et pour moi, l'Algérie, c'était vraiment la première fois que je m'engageais politiquement en me disant, bon, le monde va changer en Algérie. Cette guerre d'Algérie, il faut qu'elle serve à quelque chose. Il faut que les gens vivent autrement. Et tout de suite, j'ai un peu travaillé. J'ai été même enseignante, alors que j'avais pas le diplôme. Et je me souviens des manifestations avec des filles dans la rue où on allait planter des arbres. Et les filles étaient, comme tout le monde, surtout à Oran, où tout le monde était toujours avec des jupes courtes, etc. Et c'était... ça a été ça. Donc, je me sentais engagée. Je me sentais... Et puis, bon, je connaissais beaucoup de communistes algériens, beaucoup de couples mixtes, qui étaient compliqués à l'époque en Algérie, parce que c'était accepté, mais c'était nouveau. Hein. Et... jusqu'au moment où il y a le coup d'État de Boumediene en 1965 contre Ben Bella. Alors là, je suis dans la rue, je suis comme tout le monde, je prends... ils se trouvaient le moyen de nous asperger d'eau bleue, je me souviens. Et on se cachait pour ne pas être toutes bleues, parce qu'après, ils nous repéraient, et puis on passait quelques moments en prison. Et ceci dit, très vite, bon, comme j'étais marquée politiquement... ben, j'ai perdu mon poste et je me suis retrouvée à devoir partir en France. Bon, à l'époque, j'avais déjà deux enfants, dont un bébé, et avec leur père, on s'est retrouvés mutés à Amiens. Et là, à Amiens, je me rendais compte qu'il fallait que je comprenne la société dans laquelle je vivais. J'avais envie justement de connaître une organisation liée à la classe ouvrière. Ça m'a toujours marqué parce que c'était ma famille. J'en discutais beaucoup avec mon père et bon, c'était pour moi important. Et j'avais qu'une solution, c'était le PC. Et je suis donc allée dans une permanence du Parti communiste et j'ai passé 2 ans avant là aussi de m'être confrontée à la bureaucratie stalinienne du PC. Mon passage au PC est des choses intéressantes parce que on se lie aux gens, on se lie à des gens qui croient en ce qu'ils font, qui se battent, etc. Mais en même temps, c'est un peu compliqué parce que très vite, pour diverses raisons, j'étais quand même confrontée à l'aspect bureaucratique. Mais c'est quand même là que j'ai rencontré des militants du PC complètement dans la ligne, mais qui, me voyant poser des questions, réfléchir, etc., ont voulu m'aider. Ça peut paraître incompréhensible, mais c'est ainsi. Et c'est eux les premiers qui m'ont parlé, par exemple, du livre de Solzhenitsyn, Une journée des vents d'Inisovitch. C'était important, parce que là, on voit dans ce livre comment, justement, la bureaucratie s'installe et comment comment on ne peut pas l'accepter. C'est surtout ça. Donc, et pendant que j'étais au PC, malgré tout, j'avais des liens autres. Je fais un comité... une réunion au comité Vietnam national, le PC ne m'a pas empêché. S'il me disait, mais tu comprends, on a assez de choses, tu as été voir les gars de la CGT, mais pourquoi tu vas voir les gars de la CGT? Bon, ils sont pris en charge, ils savent ce qu'ils font. Et on avait fait une salle comble. Donc, c'était complexe, le PC, parce que ça répondait en partie à certaines de mes préoccupations et puis le lien avec la classe ouvrière, puisqu'on les voyait, on était ensemble, on discutait ensemble, on voyait comment se battre concrètement. Mais en même temps, ça ne débouchait pas. Moi qui avais déjà cru qu'on pouvait construire quelque chose d'autre en Algérie, ça ne correspondait pas vraiment à ce que je souhaitais voir et faire. Bon. Et c'est là que j'ai demandé ma mutation et que j'ai pu être mutée dans la région parisienne. Bon, j'étais à Poissy. Et là, je me souviens, je passais devant des permanents du PC, mais je n'osais pas rentrer. Je me disais, de toute manière, ça ne va pas, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est absurde. Et c'est à ce moment-là que, en mai 68, mais dès le début mai 68, il y a eu des manifestations de rue avec même des premières barricades. Et j'allais voir ce qui se passait. Et je me rendais compte qu'il n'y avait pas simplement une agitation, qu'il y avait quelque chose de plus qu'une agitation. Et bon, et puis peu à peu, hein, ça c'était début mai, et puis il y a eu la nuit des barricades, c'est, je ne rappelle plus la date, zut, le 10 mai, je crois que c'est le 10 mai, et cette nuit des barricades, ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que j'étais là quand les barricades commençaient à se construire. Et donc, moi, j'allais partout, j'allais voir. Puis, à un moment donné, je m'adresse à des jeunes qui viennent faire une barricade. Et je dis, mais vous avez vu votre barricade? Elle va contre une vitre. C'est absurde. Il faut mieux aller contre un mur. Ben, ils ont défait la barricade, ils l'ont refaite. C'était... J'avais des choses absolument étonnantes. Et à minuit, les forces de l'ordre n'avaient pas donné l'assaut. Moi, je ne comprenais pas. Je me disais, ils ne vont pas attendre qu'il y ait partout des barricades, quand même, pour réagir. Et à ce moment-là, j'ai voulu rentrer chez moi. Là, j'habitais Paris. Pour voir s'il y avait quelqu'un avec mes enfants, je ne vais pas les laisser seuls et puis essayer de me faire embarquer, et risquer de me faire embarquer. Donc, arrivé chez moi, il était plus de minuit, il devait être une heure ou deux heures, je ne sais plus, on a entendu que les forces de l'ordre donnaient l'assaut. Alors, je suis retournée avec mes copains, on a essayé de trouver un endroit pour rentrer, parce que c'était difficile de rentrer à ce moment-là dans la partie des barricades, et je me suis retrouvée dans une barricade de la rue Saint-Jacques face à l'Institut de géographie. Et ce qui était étonnant, c'est que, bon, on se passait des pavés, on construisait tout le temps, on construisait tout le temps, je ne sais plus trop ce qu'on faisait, mais on se passait des pavés, et puis on ne pouvait plus respirer parce qu'on recevait des gaz importants, pas que simplement des gaz lacrymogènes. Et les gens qui étaient au-dessus dans les immeubles nous balançaient des seaux d'eau qui faisaient stagner justement tout ce gaz. Et de temps en temps, on voyait quelque chose, et à un moment donné, sur une des barricades, bon, qui coupait la rue, je vois un jeune, je ne sais pas, il avait 14 ans, 13-14 ans. Et pour moi, c'était terrible, parce que c'était comme ce qu'on voit de la révolution de 1848. C'est-à-dire un moment où, bon, c'est tout le monde qui prend en charge. Et puis, il y avait des choses folles aussi qui circulaient sur la barricade. C'était « on tient jusqu'au matin, on tient jusqu'au matin », parce que quand les ouvriers vont partir travailler... Et au lieu d'aller à l'usine, ils vont venir ici. Alors moi, j'y croyais pas, mais je me dis, on ne sait jamais, bon, on ne sait jamais. Et je suis restée là jusqu'au moment où on a été évacués, bon, entre nous, des gens qui sont venus nous chercher. Moi, je voyais plus rien d'ailleurs, et on s'est retrouvés à Normalsup. Et là, à Normalsup, on a été enfermés, la partie de la nuit qui restait, et la matinée avant de pouvoir sortir. Et quand je suis sortie, l'étonnant, c'est qu'il y avait des gens partout. Des gens partout, et c'est le premier moment où je me suis rendu compte comment, pour une fois, les gens parlaient. Ils parlaient entre eux, qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord. Tout le monde discutait. Et au début, quand il y a eu encore des transports en commun, les gens discutaient partout. Et ça faisait du bien, parce que on sentait qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait et qui allait se poursuivre. Et ça s'est poursuivi, par exemple, pour la très, très grosse manif du 13 mai. Et ce qu'il y a eu d'extraordinaire dans cette manifestation, c'était... Bon, il y avait toujours des slogans, il y avait toujours des panneaux, il y avait toujours... Mais en même temps, on ne voyait pas la fin possible. C'est-à-dire qu'on avançait, on était très nombreux. Et moi, je me disais, mais où est-ce qu'on va? On va quelque part, on va faire quelque chose. Puis à un moment donné, il y a eu l'ordre de dispersion. Je ne comprenais pas bien. Si on se disperse là, avec peut-être des centaines de milliers de gens dans la rue. Et ça a été un peu un coup de froid, mais ce n'était pas la fin de 68. Hein. C'était juste, à un moment donné, le fait que de cette manifestation-là, qui semblait très politique, qui semblait très engagée, avec tous les groupes qu'on trouvait partout, hein, peut-être... Même le PC, peut-être un peu moins le PC, il n'était pas en avant le PC là, mais tous les autres groupes, avec leur SO, avec... Et puis dispersion. Bon, ça, c'est un premier temps de mai 68, mais en même temps, tout a continué. Et alors moi, j'avais toujours le problème de mes enfants, et c'était compliqué, parce que... Puis en plus, ils s'intéressaient à tout ce qui se passait partout. Enfin, Bruno avait 7 ans, Sophie avait un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi. Et voilà que j'apprends qu'à la Sorbonne, il y a une crèche. et ils ont passé tout le temps où ça a été possible leur vie à la crèche de la Sorbonne. Avec en plus des choses intéressantes. La première chose intéressante, c'est quand ils m'ont dit, mais il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi. Dans l'encadrement, c'était masculin, féminin. Et la deuxième chose, c'était, Bruno met bien manger, c'était, on peut manger tout ce qu'on veut. Tu sais, si je voulais finir un poulet, on me laissait finir un poulet. Et je me demande comment ça. Il me dit oui. Et c'est l'effort des Halles qui nourrissait la crèche de la Sorbonne. C'était donc des liens, et puis des liens qu'ils avaient aussi avec la campagne, avec Nantes, avec les paysans qui aussi étaient engagés. Bon, Et dans la cour de la Sorbonne, c'était des discussions sans fin. Et enfin, sans fin. C'est discussion, discussion, discussion. Et moi, je cherchais, et bon, les Mao, je sais pas, là, je ne me rappelle pas très bien, mais il y a quelque chose qui me déplaisait un peu chez les Mao, enfin bref, c'était pas très grave. Mais... Et les Trotskis, alors les Trotskis, je les voyais, enfin, ceux qui donneront LO et la LCR. Mais pour moi, ils ressemblaient trop au PC. J'avais l'impression de gens plus engagés, bien sûr, mais qui résonnaient un peu comme le Parti communiste français. Et c'est là que j'ai pris contact avec l'ORA, l'Organisation Révolutionnaire Anarchiste. Et c'est la première organisation à laquelle, après mai 68, j'ai participé. Mais c'était une organisation qui se voulait communiste libertaire. Et bon, on connaissait Daniel Guérin, on connaissait... Bon, et ça a été mon premier engagement, juste au moment de mai 68. Alors, à propos du contact avec les entreprises, ce qui était intéressant, c'est après le 13 mai, il y avait un de nos copains qui travaillait à Épernay. Et on était deux, trois. On dit, si on a encore un peu d'essence, on va aller à Épernay parce qu'ils attendent qu'on aille les voir. Je fais, ah bon? Et donc, on part à Épernay. Et on arrive dans une salle où il y avait des ouvriers, des employés. Et qui attendaient qu'on vienne les voir de Paris. Et on arrive, on commence à discuter. Et il y a un gars qui dit, bon... Arrêtez, il me désigne, il dit, tu montes sur l'estrade et tu racontes. Bon, je monte sur l'estrade et puis je parle de mai 68, de ce qu'on était en train de vivre simplement. Et les gars posaient des questions, ils avaient envie de savoir si on pouvait aller plus loin. Bon, je me rappelle pas très très bien, je me souviens pas de tout, mais je me souviens de la fin de la réunion. On s'est retrouvés dans la salle, les gens voulaient encore discuter. Et au moment de partir, il y a un gars qui vient me voir et qui me dit, écoute, il faut que vous preniez mon fils. Il faut que vous l'emmeniez avec vous parce qu'il faut qu'il participe. Et je vais te dire quelque chose, il me dit. Il faut des armes. Tu sais, ces armes qu'en 45, on a laissées, on a fait l'erreur de laisser, maintenant, il ne faut plus en laisser, il faut en avoir, il faut recommencer. Moi, j'étais un peu sidérée parce que jusque-là, j'avais aucune discussion de ce type, même avec des gens d'entreprise et bien que le problème des armes, ça se posait et ça puisse se poser à d'autres moments. Les événements se succédaient, hein, et puis c'était... à la Sorbonne, il y avait toujours quelque chose, les manifs, il y avait toujours quelque chose, les visites aux entreprises, il y avait toujours quelque chose, que ce soit à la porte de Renault ou ailleurs, avec toujours ce rapport un peu ambivalent à cause du PC. Et quand il y a eu Charletti, c'est très marrant, mais Charletti, je n'avais pas très confiance. J'avais l'impression que c'était une récupération des politiques. Et donc, je n'avais peut-être pas la possibilité facilement d'y aller, mais j'y ai pas été. Et ça n'a pas été pour moi la grande déception que ça a été pour certains. C'était, pour moi, le mouvement continuait. Il continue, d'abord, les grèves continuaient. On sentait que le pouvoir ne savait pas non plus où il allait. Il y avait un vide politique. Le moment où De Gaulle est parti, on ne savait pas où il était parti, quand il a été à Baden-Baden et qu'il a été voir une partie de l'armée. Après, il est revenu. Et puis, c'est vrai que le moment où vraiment les choses politiquement ont changé, ça a été... il y a eu une grande manifestation des bien-pensants. Et puis, il y a surtout eu des élections. Et à ces élections, c'est la droite qui a largement gagné. Mais en même temps, toute la poussée qu'il y avait eu en mai 68 était toujours là. Et ça se retrouvait dans les entreprises quand j'entendais des copains en parler, des copains... Bon. Et ça c'est... Moi, entre-temps, j'ai été nommée donc début en juin à Paris et je me suis retrouvée très vite dans un lycée parisien, un lycée de garçons, c'est le lycée Arago, Place de la Nation. Mais je ne m'étais pas rendu compte par rapport à Poissy, c'était différent, combien mai 68 était rentré dans le bahut, dans les lycées. C'est-à-dire que quand on rentrait dans un lycée, d'abord les portes n'étaient pas fermées, hein, comme ce fut après, et sur les panneaux, il y avait des affiches politiques de tous les groupes politiques. Et les discussions étaient extraordinaires. Ça discutait dans tous les coins. Après, quand les cours ont repris, selon les profs, ça discutait même avec les profs. Hein, c'était une activité. Alors, en même temps, ça discutait aussi du Vietnam, ça discutait aussi de Cuba, ça discutait aussi de l'étranger, ça discutait et surtout du monde que l'on voulait construire. Parce que ça, je ne l'ai pas dit assez, c'est se maintenir et avoir été participer à mai 68, c'est participer à cette volonté de changer le monde. À savoir que c'était peut-être une révolution, on n'en parlait pas tellement comme ça, mais on voulait changer les choses, on voulait changer les comportements. Alors il y avait toutes sortes de comportements, les comportements entre filles et garçons, les comportements avec les enfants, les comportements avec les patrons. Moi je me souviens au moment de la reprise, cette fille extraordinaire dans l'usine Von Der, qui refuse de rentrer. Je sais pas si vous. Enfin, il faut voir cette séquence-là. Elle est devant l'usine et elle dit je ne rentrerai pas. Et elle a autour d'elle des délégués syndicaux et puis d'autres qui disent mais si, il faut que tu rentres maintenant. Avec tout ce qu'on a fait, les rapports vont changer, ne seront plus les mêmes. Et elle dit vous vous trompez. Enfin, je ne sais pas si elle dit exactement comme ça, mais l'idée c'est vous vous trompez, ça recommencera. Elle dit ça recommencera et moi je ne rentrerai pas parce que je ne recommencerai pas la même chose. C'était ça mai 68 avec cette volonté de changer les rapports. D'imaginer un monde autre, un monde sans la guerre, un monde, je dirais pas encore sans le capitalisme, c'était peut-être pas aussi net que ça, mais sans les patrons et les lois patronales, oui. Et puis il y avait quand même la police, hein. La police, elle savait réprimer. Moi j'avais remarqué qu'au fur et à mesure de mai 68, ils étaient de plus en plus rapides parce qu'ils étaient de plus en plus légers. Alors c'est peut-être une impression. J'avais l'impression qu'ils n'étaient pas lourdement armés pour pouvoir vraiment courir et nous attraper à chaque fois. Enfin, à chaque fois. Et attraper tous ceux qui pouvaient attraper. Mais souvent, quand j'ai regardé les chiffres, il y avait 400, 500 arrestations après une manifestation. Et les affiches de mai 68. Moi, je me souviens, on allait les chercher. On allait les chercher aux Beaux-Arts. Il y avait des tas d'affiches, on pouvait prendre ce qu'on voulait. Les gars, ils travaillaient nuit et jour. Et il y avait c'était à 20h, c'est la police vous parle. Bon, il y avait tous les slogans politiques, et moi je me souviens aussi d'un que j'aimais bien à l'époque, c'était quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Mais il y avait toutes ces affiches, je les vois et je me rappelle pas forcément les slogans qu'il y avait dessus, mais c'était d'une richesse qu'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs longtemps, c'est celles qui se sont vendues après, parce que les gens faisaient des collections avec. Mais là-bas, ce n'était pas des collections qu'on faisait, on les achetait, on les collait, et on discutait autour de ces affiches-là. Donc, ce mai 68, pour moi, il a duré après, y compris après les élections. J'étais nouvelle dans ce lycée-là, mais les choses allaient très vite. Le premier conseil de classe, parce qu'on avait discuté avec les lycéens, etc., ça s'est fait avec tous les profs et tous les lycéens. Et moi, j'étais contente parce que je disais, au moins, les profs, ils ne pourront pas dire la même chose des lycéens. Quand ils les ont en face d'eux, ils ne peuvent pas dire la même chose. Et dans tous les domaines, il y avait cette volonté de changer les rapports. Bon, alors, la société, dans les usines, etc., ça ne changeait pas encore complètement. Ce n'était pas vraiment la révolution, mais c'était... Il y avait quand même d'abord un air révolutionnaire, d'abord il y avait... Et ça a duré longtemps, parce que je ne me rappelle pas quand... Même en 1995, c'est pourtant bien tardif quand il y a eu la grande grève, mais moi je me souviens que des lycéens, ils venaient avec moi à la gare de Lyon qui était à côté. Donc, il y avait cette volonté pendant un temps de s'engager. Il y a eu toutes les manifs de lycéens et de lycées professionnels. Hein, c'est contre la loi de Vaquer. Je sais que, par exemple, là, une fois pendant cette loi de Vaquer, bon, j'étais là, et puis il y avait des gars de LEP, et de lycée professionnel, et puis le slogan, c'était « Abat l'armée du capital ». Puis j'étais à côté, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Puis je me rapproche, et puis en fait, ils disaient « Abat l'armée du capitaine ». Parce que pour eux, le capitaine, c'était quelque chose de concret. Mais le capital, ils ne connaissaient pas, ça c'était certain. Mais en même temps, bon, cette... J'ai du mal à comprendre comment... on a lutté pour garder les panneaux, bon, les lycéens ont lutté pour garder les panneaux, la vie politique et tout ça, mais ils ont vite... Enfin, je dirais, les responsables, la bourgeoisie, les responsables dans tous les domaines, ils ont peu à peu grignoté, jusqu'à reprendre leur pouvoir dans les lycées. Après, c'était pas croyable, hein, c'était... Rien pour discuter politique, moi il fallait que ce soit dans mes cours, et à la fin de mes cours, c'était pas dans le bahut, c'était presque impossible. Et pourtant, il y avait encore quelques manifs, mais. Et après, aujourd'hui, on dit regardez, il n'y a pas de vie politique, ils ne sont pas politiques. Mais ça a été détruit aussi, cette vie politique qu'il y avait dans les lycées. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne rejaillirait pas, hein. Ça pourra rejaillir de la même manière. J'ai jamais pensé qu'il y avait une bonne organisation politique, hein, même aujourd'hui. Mais je pense qu'il y en a qui sont moins pires que les autres. Et donc, j'ai d'abord été à l'ORA. Et j'aimais bien le lien avec les militants espagnols de la Révolution espagnole qu'on pouvait voir, Daniel Guérin et autres. Et puis, bon, les choses ont été complexes parce que... Donc, on a été d'accord uniquement pour la lutte de classe, ça allait, mais le jour où on a dit que la dictature du prolétariat, ben, c'était pas si mal que ça, hein, donc on a été exclus. Et le gag, c'est que la seule organisation dont j'ai été exclue, c'est une organisation anarchiste, l'ORA. Bon, bref. Donc après, je me suis retrouvée entre la LCR, LO, etc. Et j'étais plus attirée par LO parce que ça correspondait plus à l'engagement dans le monde ouvrier, dans la classe ouvrière. Et donc, je suis rentrée à LO. Au début, on m'a dit, tu sais, deux enfants, tu ne pourras pas être intégrée. Je dis, on verra bien. Hein. Et encore plus quand j'ai écrit un bouquin. Mais enfin, bon, justement, les chartes sur fond de guerre d'Algérie. Et au début, LO, c'était une organisation où la formation était extrêmement active. Pas simplement les lectures des bouquins essentiels marxistes, trotskistes, économiques ou autres, mais aussi les romans, parce que ça, c'était bien à LO. C'était aussi de faire lire des romans, parce que c'est vrai que c'est dans la vraie vie, et dans la vraie vie, on peut voir des choses extrêmement intéressantes qui recoupent ce qu'on peut lire dans des articles théoriques, et dans des bouquins théoriques. Et... au bout d'un moment, malgré tout, à LO, alors il y avait aussi bon, tous les engagements dans la classe ouvrière, les comités de grève, les bagarres, tout ça c'était très bien. Mais en même temps, il y avait une organisation extrêmement rigide et qui a fait qu'à un moment, certains militants de lutte ouvrière se sont mis un peu à l'écart et ont créé la fraction de lutte ouvrière. Et quand il y a eu la fraction de lutte ouvrière, je me souviendrai toujours, c'est... Illy, je ne me rappelle plus son nom, bon, bref, un copain qui venait me voir en essayant de voir si je voulais venir. Je lui ai dit, mais tu sais, il y a longtemps que je suis d'accord de toute manière, parce qu'il y avait cet aspect-là de LO qui me gênait. Donc j'étais dans la fraction, et bon, c'était un peu compliqué, parce que les rapports avec LO étaient très compliqués. En même temps, on continuait le boulot, bien sûr. Et puis ensuite, il y a eu le NPA qui s'est créé. Et quand le NPA s'est créé, pour moi, c'était peut-être une voie de, j'allais dire, de sortie, une voie de sortie, puis une voie d'accompagnement. Et ça m'intéressait beaucoup. Et donc, après, j'ai milité au NPA parce que ça correspondait à ce moment-là à ce que je trouvais de mieux comme organisation révolutionnaire. Même si c'était complexe, même si c'était pas toujours comme je l'entendais, même si c'était pas aussi trotskiste que j'aurais voulu, puisque pour moi, le trotskisme, ça a toujours été une référence par rapport à l'antistalinisme, mais bon. Et donc, ça a été cet engagement-là, tout en sachant que tout n'est pas simple. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'organisation miracle. Et même aujourd'hui, c'est bon. Mais en même temps, c'est la possibilité d'avoir une action continue, d'avoir un journal qui se tient, d'avoir... de savoir comment s'engager, à quel moment. En ce moment, il y a des problèmes essentiels. Moi, je trouve qu'il y a des problèmes essentiels. Je trouve que la société, bon, tous les courants révolutionnaires n'en prennent pas leur part, c'est les migrants. On peut aller jusqu'à Menton pour soutenir, on peut aller, mais il manque quelque chose par rapport aux migrants, parce que ça n'a pas été bien intégré, je pense, ce à quoi on est confronté aujourd'hui. On sera confronté bien plus. Alors, je pourrais aussi parler un peu de tous les mouvements où les femmes se sont engagées. Alors, il y a les mouvements féministes, mais concrètement, il y a les mouvements pour la contraception. C'était pas simple à l'époque, parce qu'il faut savoir que les médecins n'acceptaient pas la contraception si les femmes n'étaient pas accompagnées d'hommes, de leur mari ou de leur copain. Moi, quand j'étais à Amiens, j'ai milité un moment, justement, dans un de ces centres du planning familial. Et c'était très complexe. En même temps, l'avortement, ça ne fallait pas en parler. Hein. C'est venu plus tard. Et il y a à chaque fois des femmes qui se sont préoccupées, suivies par d'autres femmes qui pensaient que c'était vraiment le moment de s'affirmer en tant que telle et de faire partie de tous les courants, justement, d'émancipation. Et je pense jusqu'à aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, donc, on reparle de mai 68, et ceux qui l'ont vécu ont envie, justement, de faire partager, de faire comprendre ce qui a été vécu. Et pourtant, il y a des réticences pour certains et par certains. Et moi, je vous parlerai, par exemple, de Cohn-Bendit. J'avais le souvenir de quelqu'un d'engagé, de bâton, mais... qui, à partir du moment où il est parti, où il a dû partir en Allemagne, bon, a un peu changé. Quand je dis qu'il a un peu changé, je dirais même pire que ça. Lui qui paraissait être lié au mouvement révolutionnaire, eh bien, a préféré s'intégrer en fait dans le monde dans lequel il vivait. Alors, même s'il était marginal, parce qu'il a souvent été marginal, hein, ça lui a été d'ailleurs parfois bien reproché. Et il a fini quand même dans des instances dans des instances politiques qui n'avaient rien de révolutionnaire, qui étaient justement faites pour encadrer aussi la société. Et étant donné aussi les positions qu'il prenait, par exemple à l'Assemblée européenne. L'Assemblée européenne, quand on l'entendait parler, ben, on ne reconnaissait pas le Cohn-Bendit de mai 68. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Parce que quand on entend parler de mai 68, il ne dit pas que c'était une erreur. Il ne va pas jusque-là quand même. Mais c'était un mouvement étudiant, c'était un mouvement dans lequel il s'est bien déplacé. Mais ce n'était pas le mouvement auquel nous on croit, quand on croit justement que mai 68 a été plein d'espoir et que surtout, ça peut recommencer, parce que Cohn-Bendit, ça ne va pas recommencer. Hein. Il aime bien Macron, il aime bien ces gens-là qui sont là pour écraser justement ses idées, et notamment les idées révolutionnaires, et pas changer de société. Donc, je disais entre nous, bon, j'ai entendu Gessmar, bon, il a décroché, mais il était plus sympa, parce que justement, il ne crache pas dans la soupe, comme Cohn-Bendit crache dans la soupe, d'autant plus que il arrive à avoir de bons bouillons. Voilà.